Bonjour à tous, ou rebonjour, nous allons commencer, ou plutôt continuer. Il est temps, pour respecter les temps, et avant d'aller vers les logiques de Medcamp, de continuer la réflexion collective lancée ce matin. Et donc, quelques mots juste pour me présenter. Laurent Devime, je suis professeur de sciences sociales dans cette école. Mon activité de recherche est rattachée au créneau. Et je me joins bien volontiers aux propos du directeur ce matin, Christian Dautel et Dan Bossé, pour me réjouir que cette école soit le lieu aussi où nous pouvons discuter des enjeux immenses, me semble-t-il, de ce que l'on a appelé open science, science ouverte, open access. Je ne reviens pas tout de suite sur les nuances sémantiques qui ont du sens entre ces différents termes. Et puis, on est sur une deuxième table ronde dont la logique est un peu différente de celle de ce matin, mais complémentaire, c'est-à-dire que je vais bien sûr présenter les intervenants tout à l'heure. Une logique de table ronde sans pause au milieu, mais donc on s'arrête à 16h, avec des présentations liminaires qui ne seront pas très longues, 6-8 minutes environ. Ensuite, suite à ce premier temps, qui vont évidemment nous permettre de comprendre d'où parlent les uns et les autres, un temps d'échange sur les thématiques qui seront sorties de ce premier temps. Et puis, un temps d'échange avec la salle qu'on essaie de ménager d'une demi-heure environ. Donc ça, ce sont les promesses du début. Nous verrons si nous sommes capables de les tenir. Et c'est toujours bien de commencer à prendre le micro à 14h08 pour faire venir, en fait. Dès qu'on commence, ça fait venir. Et puis, alors quelques mots aussi, parce que vous avez peut-être vu sur le programme l'intitulé de cette deuxième table ronde, qui est un peu particulier, et puis qu'on s'est un peu réapproprié quand on a préparé ensemble les enjeux de cette table ronde. L'intitulé, il est « Recherche, monde professionnel, commercialisation et sciences ouvertes, une nouvelle équation ou adéquation, point d'interrogation ». Alors voilà un titre un peu long qui ne fait pas best-seller, assurément, mais quand on s'est réapproprié cette question, il nous semblait peut-être intéressant de questionner la science ouverte au prisme de ce que nous avons appelé des champs disciplinaires instables. Alors, on y reviendra certainement tout à l'heure, puisque instable, pas de la même manière. On ne peut pas dire que le droit, les STAPS et l'architecture soient des domaines instables de la même manière. Et je vais revenir tout de suite sur comment on peut penser cette spécificité. Et puis, ça a été dit ce matin, je ne sais plus par qui, que la recherche architecturale était un angle mort, d'une certaine manière, des domaines connus jusqu'ici, et y compris par le réseau Medici. Donc c'est très bien, voilà, c'est un des premiers attendus évidemment de cette table ronde, c'est qu'on puisse prendre connaissance de là où on parle et de ces différents enjeux. En tout cas, je rejoindrai volontiers des propos entendus ce matin sur l'intranquillité dans laquelle nous nous trouvons probablement entre des mouvements de fond puissants qui touchent tous les milieux de l'édition et qui reconfigurent largement des rapports entre monde public, monde privé, des rapports, ça a été dit, et je ne fais que les rappeler ce matin, entre des auteurs et des éditeurs, et des enjeux probablement aussi de reconfiguration de culture professionnelle, et peut-être de faire se rassembler davantage des logiques de métier de l'édition très présent évidemment ici, et puis d'autres métiers comme le métier d'enseignant-chercheur. Dans cette table ronde, on a une dominante d'enseignant-chercheur, et j'en fais moi-même partie. Et question vive, parce que nous sommes aussi des formateurs, et donc je crois que depuis quelques années, on passe toujours beaucoup de temps, évidemment en cycle master et doctorat, mais aussi avant, à travailler sur cette question des transformations de l'édition scientifique, notamment. Et pour faire un petit clin d'œil à Laurence Bizien, qui est, comme Anne Bossé l'a dit ce matin, cheville ouvrière, avec d'autres, évidemment, de cet accueil ici, quand Laurence intervient auprès de doctorants du laboratoire pour sensibiliser à tous les enjeux politiques, techniques, juridiques de l'édition, on tombe sur un nombre de ressources que je trouve assez prodigieuses et souvent parfois un peu méconnues par certaines cultures disciplinaires, probablement. En tout cas, je parle pour l'architecture, l'urbanisme ou les études urbaines. Et donc, dire à quel point c'est utile de prendre du temps, de passer des heures sur comprendre dans quelle revue on est susceptible de publier, de comprendre ce que veut dire l'auteur. Est-ce que ça veut dire que publier, oui, mais dans quelle revue ? Ce que cela veut dire que de prendre du temps sur les éditeurs prédateurs ? quelques exemples, et je ne vais pas les développer, qui montrent que, en fait, plus il y a de ressources, plus il faut passer, calmer le jeu d'une certaine manière. Et il y a une phrase que j'aime bien d'une auteure géographe qui dit que nous sommes, il pleut des images, il pleut des discours et nous sommes enfermés dedans. Donc j'ai l'impression qu'un des enjeux du réseau Médicis aussi, c'est de permettre à ce qu'on ouvre un petit peu les enjeux et qu'on y voit clair. Et je pense notamment, avant tout, aux collègues enseignants-chercheurs, aux doctorants, aux étudiants de master. J'ai bien aimé ce matin l'idée qu'on puisse s'attarder un petit peu sur ce qui s'est appelé l'environnement élargi de l'éditeur. Je trouve que c'est une notion intéressante. Alors, pour venir plus rapidement à notre table ronde, ce qui s'est joué à un moment donné où on échangeait autour d'une table ronde spécifique, c'était précisément des domaines dans lesquels le lectorat, notamment, des publications de ces disciplines que j'ai évoquées très rapidement, concerne potentiellement fortement des professionnels. Qui ne sont pas forcément non plus pour autant des publications techniques. Et il nous semblait que, de manière différente probablement, c'est tout l'enjeu de la table ronde, on pouvait avoir des questions qui se recoupaient entre le domaine des STAPS, le domaine de l'architecture et le domaine du droit. Cela se recoupe parfois avec des statuts différents, par exemple. Hein, des enseignants-chercheurs en école d'architecture, on en a parlé ce matin, mais de même que la particularité en France du monde hospitalier ou du monde du droit peuvent héberger aussi bien des gens qui sont public-public, enseignement et recherche, et puis d'autres qui sont public-privé, c'est-à-dire qu'ils exercent une profession libérale en même temps que leur travail d'enseignant-chercheur, et cela pose aussi toute une série de questions qui seront peut-être abordées dans la suite. Donc voilà, vous voyez cet enjeu d'être sur des domaines plutôt spécifiques dans la mesure où ils sont, peut-être au moins pour l'un d'entre eux, moins universitarisés que les autres, disciplines moins installées que le serait l'histoire, la sociologie, etc. Et pour autant qu'ils se sont fortement universitarisés, pour lesquels on est intéressé de faire un carottage entre guillemets sur les publications, sur les productions. Et je fais juste aussi un clin d'œil à cet enjeu évoqué par Corinne Thiriounot ce matin de ce guide en préparation des activités et des produits de la recherche architecturale. Et à juste titre, elle évoquait que bien sûr se jouent des questions d'exigence que partagent les revues scientifiques, mais aussi des questions vives sur la place que l'on fait à une recherche qui est moins académique et qui n'est pas pour autant moins rigoureuse et qui peut émerger à la recherche action ou à la recherche expérimentation, pour en parler de quelques-uns. Le dernier point un peu introductif avant de vous présenter les intervenants, c'était en effet de souligner ces enjeux de la bibliodiversité abordés ce matin. Et c'est vrai que moi j'avais eu l'occasion de faire une incursion plutôt rapide dans ces journées en juin, ces états généraux de l'édition en sciences humaines et sociales, dont avait témoigné rapidement Julie Clarigny. Et puis je vais juste vous citer un extrait d'un texte qu'elle avait publié dans la foulée pour en rendre compte. Je la cite parce que j'ai l'impression que ce sera quelque chose qui sera présent cet après-midi. Et puis si ce n'est pas cet après-midi, c'est j'espère de manière transversale au cours des journées. Cette idée que le paysage des sciences humaines est particulièrement éclaté en France, où l'édition privée, à travers de grandes maisons, Gallimard, Seuil, Fayard, pour en nommer quelques-unes, ou de plus petites, Anarkasis, Anamosa, La Fabrique, aspire, sous la forme de l'essai ou de la monographie, une partie des textes produits par les chercheurs. Les presses universitaires sont là, pourtant, manifestant ces dernières années, une envie de renouvellement, tout comme les sociétés savantes et les laboratoires de recherche. Ces interactions nourrissent bon nombre de conflits, rappelle le président de l'EHESS dans son allocution introductive, bon nombre de conflits, d'accusations réciproques et de malentendus inutiles. La bibliodiversité, qui est une richesse, implique aussi rivalité et concurrence. Et je pense que, comme on l'a vu depuis ce matin, il ne s'agit pas de taire ces éléments, et c'est la raison pour laquelle aussi j'employais le terme d'intranquillité, y compris à titre personnel, comme enseignant-chercheur, quand on se pose des questions sur l'accès de nos travaux, sur ce que peuvent faire des collègues entre choisir une maison d'édition privée ou publique, etc. etc. Je n'en dis pas plus pour l'instant, pour vous dire que donc, à la table ronde, et je ne vais pas les présenter longuement parce que vous pourrez le faire aussi, et de manière plus pertinente, nous avons, je vais les présenter de droite à gauche, ou de gauche à droite, suivant là où vous êtes placé, Nadine Roudil, professeure des écoles d'architecture, et qui intervient ici au titre de co-rédactrice en chef de la revue Métropolitique. Nous essaierons, tant que faire se peut à chaque fois, d'ouvrir les onglets pour que ce soit un minimum illustré. Ensuite, Serge Morand, LEH Édition, chef de projet, LEH Édition, donc non académique, mais représentant, et c'est très important pour nous, il me semble, dans cette table ronde, d'une maison d'édition privée. Tout arrive. Frédéric Pouzin, architecte et directeur de recherche au CNRS. Au titre de la revue qui vous a été présentée ce matin, Corinne Thierry en a parlé, les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, sur Open Journals, comme on l'a dit. Pierre Chabard, au titre des éditions de la Villette, mais pas seulement, et il vous dira peut-être tout à l'heure pourquoi vous ne trouvez aucune trace en ligne sur Internet des éditions de la Villette, puisqu'on se posait la question de qu'est-ce qu'on mettrait bien au moment où il intervient, mais également donc intervenant au titre d'une autre revue dans laquelle il était impliqué ces dernières années, qui s'appelait Criticat, et qui va nous permettre aussi de poser la question de la place de la critique architecturale, précisément dans le paysage de l'édition scientifique. Enfin, Gildas Loirand, sociologue, maître de conf à l'Université de Nantes, et directeur de la revue Sciences Sociales et Sports, c'est à ce titre, disons, hein, que nous sommes présents. Donc on s'est dit, outre ces petites consignes de chacun prendre un temps de parole pour contribuer au débat, qu'ensuite on faisait circuler sur certains thèmes, plutôt de manière vive et interactive, quoi, hein, le propos. Donc la question maintenant est de savoir qui commence. Et eh bien, on pourrait commencer dans le sens inverse de celui que j'ai suggéré pour la présentation. Alors, Gildas.